France Inter, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
Une émission consacrée ce matin à la couverture de l'actualité politique et au traitement médiatique du chef de l'État sur France Inter. Lorsque vous m'écrivez, il apparaît clairement que la politique et Emmanuel Macron figurent parmi vos sujets de prédilection. Et en ce mois de novembre, autant dire que l'actualité vous a inspiré, si j'en juge le nombre de mails reçus, plus de 18 000. Novembre, un mois de bataille qui a débuté par une itinérance mémorielle et s'achève par des blocages de rond-point. L'un marche et veut avancer, d'autres choisissent d'occuper le bord d'une route et n'embouche plus en guise de protestation, en marche ou enracinée. Cette réalité, il revient aux journalistes politiques de la décrire, de la transmettre, de l'analyser. Mais pour cela, sont-ils réellement indépendants? Subissent-ils des pressions? Sont-ils proches du pouvoir ou membres d'un parti? Autant de questions, de courriers dans lesquels on retrouve régulièrement Emmanuel Macron.
Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà.
Vous sentez pas de malaise en France, Guimond ?
Je sens le malaise. Si je veux apporter une vraie réponse, je suis obligé de changer les choses.
Vous étiez trop jeune, vous n'avez pas connu mes 68.
Vous problème.
Étiez trop jeune.
Pour sauver son agenda 2019, Emmanuel Macron doit réinventer son personnage.
Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
Emmanuel Macron, dans sa tentative jupitérienne, a voulu dans un premier temps retrouver l'autorité du surplomb et de la rareté, mais ça ne tient plus.
Je viens au carburant, mais le carburant, c'est pas bibi.
On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant.
Pour répondre aux questions des auditeurs ce matin, avec moi dans ce studio, Thomas Legrand, journaliste et éditorialiste, et Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter. Bonjour.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Avant d'évoquer le traitement de l'actualité politique, nous allons nous intéresser à vous. Je vous livre le propos de Jean-Michel. Thomas Legrand et Yaël Gauz cachent leurs cartes de militants politiques derrière leurs cartes de presse. Les chroniques politiques sont aux mains de militants, c'est intolérable en journalisme. Alors ma question est simple, êtes-vous encarté?
Non. On n'est pas encarté, je pense que ce Yaël n'est pas encarté.
Je ne suis pas non plus encarté.
Il n'a jamais été, mais je pense que cet auditeur ne parle pas de carte réelle. Il doit imaginer qu'on est encarté au moins mentalement dans un parti. On va essayer de lui démontrer que c'est pas vrai.
Mais moi, c'est une conviction que je me suis faite dès la première année d'études de sciences politiques à Rennes, c'est que si j'avais une carte dans un parti politique, je serais décrédibilisé comme journaliste derrière, sauf à travailler pour un média d'opinion, ce que n'est pas France Inter.
Et alors, vous ne pensez pas qu'il y a là une confusion entre le rôle d'un éditorialiste et celui d'un journaliste, Thomas Legrand ?
Alors, un éditorialiste, il faut définir, effectivement, vous avez raison, il faut définir ce qu'est un éditorialiste. Un éditorialiste, c'est un journaliste. Dans un média engagé, dans la presse écrite, disons, il y a des journaux estampillés de gauche, des journaux estampillés de droite, et tous ces journaux forment, finalement, à eux tous, la pluralité de la presse, et font vivre à partir de faits qu'ils partagent. Ça, j'y tiens. C'est-à-dire que l'humanité ne remettra pas en cause les faits décrits par le Figaro. Puisque ce sont des journalistes dans les deux cas, ils remettra en cause l'interprétation des faits et ce qu'on peut en dire sur un plan politique. Donc à partir de faits communs, ils ont des interprétations différentes et ils font vivre un débat politique. Pour l'éditorialiste que je suis du service public, ce n'est pas un édito d'opinion. Et moi, je fais la différence entre l'opinion et le point de vue. C'est-à-dire que j'ai des opinions qui varient d'ailleurs, qui sont pas aussi fixes que ça. Du fait de mon métier d'ailleurs, de ma curiosité naturelle qui fait que je suis journaliste, mais surtout ma chronique est une chronique, mon édito est un édito de point de vue. Et c'est différent les points de vue et les opinions. J'essaye de me décaler un peu par rapport aux faits existants et par rapport à ce qui se dit pour qu'on voit ces faits sous un autre angle, pour donner des clés. Et si je puis donner un exemple, par exemple sur Emmanuel Macron, puisque je crois que c'est un peu le sujet de notre émission. Et il ne s'agit pas de dire que ce que fait Emmanuel Macron est bien ou mal, il s'agit de dire si ce que fait Emmanuel Macron est en accord avec ce qu'il avait dit qu'il ferait. Je cherche la cohérence. Et par exemple, en ce moment, ce matin ou cette semaine, j'ai beaucoup dit que l'espèce de verticalité très technocratique d'Emmanuel Macron était totalement en contradiction avec ce qu'il avait dit pendant la campagne. Ça peut être bien, la verticalité technocratique, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pour et qui trouvent que c'est efficace. Là, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que ça n'a pas de rapport avec ce qui avait été dit et que c'est peut-être une des causes du mécontentement.
Michel, un auditeur, nous écrit « Lorsqu'il y a des dîners à la maison, la question revient toujours. France Inter a-t-elle un parti pris ?» Alors Thomas, Yaël, si vous participiez au dîner organisé par cet auditeur, qu'est-ce que vous lui répondriez ?
On est soumis à des règles aussi, des règles du CSA hein, qui exigent pluralisme et équilibre de temps de parole. Donc il faut savoir que si vous avez une impression de répétition parfois de ministres dits macronistes du gouvernement, c'est parce que depuis le 1er janvier 2018 de cette année, il faut respecter 33%, un tiers de temps d'antenne pour l'exécutif, pour les ministres. Or, ils sont une trentaine. Donc forcément, vous avez peut-être parfois l'impression d'un effet répétitif, d'un casting qui revient. Et effectivement, si le président venait, ce qui n'est pas encore le cas, hein, l'invitation est toujours lancée, ça compterait comme un temps, évidemment, pour l'exécutif. Ensuite, vous avez le deux tiers du temps restant, sur une heure d'antenne, donc 40 minutes, qui sont à partager entre toutes les formations politiques. Mais La République En Marche, au sein de cet échiquier, est majoritaire, puisque c'est le parti majoritaire. Donc là aussi, d'où l'impression que vous avez parfois de surreprésentation. En fait, non, on ne fait que respecter cette règle de un tiers, un tiers, un tiers.
Et d'ailleurs, La République En Marche est sous-invitée par rapport à sa représentation à l'Assemblée, qui elle-même est très surévaluée par rapport à son vrai poids.
Tout à fait.
Emmanuel Macron, le chef de l'État.
Emmanuel Macron, le président Macron.
France Inter serait une radio pro-Macron, c'est une conviction partagée par les auditeurs qui nous écrivent, Hélène par exemple. J'entends aux infos de 13h qu'une ministre, Elisabeth Borne, est invitée ce soir au téléphone sonne et demain matin une autre ministre, Agnès Buzyn, chez Nicolas Demorand. Et là je me dis que vraiment la radio que j'écoute quasiment toute la journée est devenue Radio Macron. Pratiquement tous les matins nous avons droit à un député En Marche ou à un ministre d'Emmanuel Macron. Merci de mettre un peu de diversité sur cette radio publique. Yaël Gauss, que répondez-vous à Hélène ?
Que c'est le pouvoir qui gouverne en ce moment et que nous, on les passe au grill. C'est ça l'intérêt journalistique d'inviter un ministre ou un député de la majorité. C'est comme le disait Thomas, le mettre face aux contradictions, face aux autres solutions éventuellement que les oppositions proposent. Donc c'est passer au grill. Et ça, c'est un travail extrêmement exigeant pour les journalistes que nous sommes. C'est qu'il faut se plonger dans les archives, qu'il faut évidemment regarder les rapports, ce qui s'est fait les années précédentes, est-ce qu'ils sont en cohérence avec leur programme. Donc oui, c'est le grill. Donc oui, peut-être des ministres et des députés de la majorité qui sont là, mais pour être challengés.
Ah oui, en plus, ils sont pas là tous les matins, contrairement à ce qui est dit. Et on invite aussi, évidemment, beaucoup l'opposition. L'équilibre a été rappelé par Yaël Gauss. Il nous est imposé. Et il y a un sentiment, quand on est auditeur, c'est que, finalement, quand quelque chose nous énerve, on le retient beaucoup plus. Hein. Moi, j'ai suivi le Front National pendant des années. Je me suis toujours fait engueuler par tout le monde parce que soit je le traitais trop, donc on le survalorisait, on le diabolisait, soit on le traitait normalement, donc on le banalisait, soit on le traitait pas assez, donc on le sous-estimait, on était des déracinés, on voyait pas la vérité. Donc, quand quelque chose nous énerve, on le voit un peu partout.
Thomas, justement, Emmanuel Macron voulait une parole rare, des discours plutôt que des interviews et avoir une grande maîtrise des règles du jeu médiatique. Est-ce que cette manière d'agir complexifie votre travail ou le rend plus intéressant ? Est-ce que cela fait de ce président un sujet ou un objet médiatique à part ?
Mais déjà, l'objet médiatique, c'est un objet politique. La façon dont il s'exprime et les raisons pour lesquelles il s'exprime, c'est intéressant. Le président est au centre, c'est nos institutions qui veulent ça. Et notre élection présidentielle, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Arrêtons d'élire des présidents ». Et justement Emmanuel Macron, il s'est fait élire d'une façon très personnaliste, beaucoup plus que sur des idées. Et ça le met encore plus au centre de tout. C'est pour ça qu'on a cette impression, votre petit montage sonore le dit bien, cette impression d'omniprésence du président, même quand il ne parle pas. Mais c'est pas parce qu'il est là qu'on ne le critique pas, c'est pas parce qu'il est présent dans le débat qu'il n'est pas challengé. Et je trouve un petit peu injuste cette critique. Et d'ailleurs, vous avez choisi de mettre le président au centre de cette émission. Mais on se fait autant, Yaël pourra me le confirmer, autant allumé par nos auditeurs qui trouvent qu'on est trop anti-macronien, qu'on serait trop gauchiste, rarement qu'on serait trop à droite. Mais voilà. Et donc cet équilibre-là prouve peut-être que bah, finalement, on essaye d'être sur une crête, c'est très compliqué, et on essaye d'y être.
Là où on se sent bien, les jours où on se sent bien avec Thomas, c'est quand on est engueulé sur Twitter des deux côtés. On se dit peut-être que notre
c'est assez équidistant,
raisonnement était juste.
En volume et en qualité, sur Twitter et sur mail, j'ai des critiques des deux côtés.
Oui,
il y a aussi des gens qui disent que c'est pas trop mal. Hein.
Au service de la médiation, il n'y a pas cette équidistance.
Oui, parce que je pense que ce sont les réactionnaires qui réagissent, c'est marqué dessus, et donc c'est un peu les extrêmes de chaque camp qui réagissent plus. Et en ce moment, il y a une montée de l'anti-macronisme qui est, à mon avis, justifiée par le décalage entre ce qu'il a dit et ce qu'il fait, qui fait que tous ceux qui n'aiment pas Emmanuel Macron, eh bien, nous reprochent d'en parler.
Et parce que l'anti-macronisme est nourri de multiples oppositions. Aujourd'hui, vous êtes en marche, seul, face à un PS, Europe Écologie Les Verts, le Rassemblement National, les Insoumis, les LR, qui sont en hostilité à cette politique. Donc ça fait beaucoup de monde derrière.
Un auditeur, Gaël, observe que la recherche de la petite phrase polémique est devenue le graal du journaliste jusque dans les émissions d'analyse qui sont censées traiter l'information avec plus de recul. Quand allez-vous réveiller et choisir d'apporter votre pierre à l'évolution positive de notre société par votre travail journalistique au lieu de vous mettre au niveau des réseaux sociaux, justement vous nous en parliez, Gaël, pour la laisser donc se complaire dans son penchant pour les ragots. Gaël.
Très bonne question. Moi je revendique le décryptage de ces petites phrases. Parce que la politique, ce sont des mots, hein. On parle de paroles performatives, paroles pour l'action. Eh bien, dans ces phrases, il y a évidemment un enjeu d'action politique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand Christophe Castaner dénonce dénonce la peste brune sur les Champs-Élysées la semaine dernière, quand Emmanuel Macron à l'étranger fustige les Gaulois réfractaires, à chaque fois ce sont deux mots, des petites phrases certes, mais qui nécessitent une longue analyse derrière, parce que ça dit beaucoup de choses. Ça décrypte des stratégies politiques à l'œuvre, et puis ça désigne une politique. Et ça, c'est à nous de le dire et de le montrer.
Thomas Legrand, vous aussi, vous nourrissez un intérêt particulier pour ces petites phrases que semblent ne pas toujours apprécier les auditeurs.
Ben, ça dépend ce qu'on appelle par petites phrases. Par exemple, la phrase que vous avez d'ailleurs diffusée sur le maréchal Pétain d'Emmanuel Macron, je l'ai analysée parce que là, Emmanuel Macron rompait avec une tradition, et donc il fallait bien en analyser les contours. C'est une phrase, une petite phrase. Les petites phrases très politiciennes, j'ai pas l'impression Yaël et moi et tout le service politique qu'on en use trop, on l'utilise trop justement à France Inter, notamment dans les interviews de Léa Salamé et de Nicolas Demorand. On essaye de d'abord de privilégier le fond des dossiers et de finir par ce qui est plus politique, politicien si on peut dire.
Itinérance mémorielle, comme dit l'Élysée.
Une semaine d'itinérance mémorielle.
Une itinérance mémorielle.
Son itinérance mémorielle pour le centenaire de la Grande Guerre.
De sa semaine d'itinérance mémorielle.
De nombreux reproches sur la reprise des éléments de langage de la communication présidentielle. Et en ce mois de novembre, l'emploi massif d'itinérance mémorielle a été très fortement critiqué. Étienne écrit « itinérance de mémoire par-ci, itinérance de mémoire par-là ». En langue française normale, on aurait dit « déplacement commémoratif », mais ça doit être trop ringard, pas disruptif, pas en marche, pas nouveau monde. Journaliste, n'est-ce pas une profession qui doit faire preuve d'un esprit critique supérieur à la moyenne? Les journalistes de Radio France ont-ils de l'esprit critique? Et j'enchaîne tout de suite, alors avant de vous laisser répondre là-dessus, avec une autre remarque au sujet de ces éléments de langage. Jean-Luc considère que, pour pouvoir faire partie de l'élite intellectuelle bobo parisienne qui intervient sur les ondes de la radio publique, autrement dit les journalistes, les experts en communication, les membres de think tank, économistes et autres spécialistes, il faut venir avec son catalogue d'éléments de langage formaté. Les intervenants se doivent dénoncer un minimum d'expressions emphatiques telles que jupitérien, macronisme, verticalité, maître des horloges en même temps et l'incontournable nouveau monde, ancien monde. Tout ceci est irritant et pathétique, conclut-il. Et
moi j'ai l'impression, alors c'est compliqué, j'ai l'impression de faire par exemple une chronique sur deux sur l'explication sémantique, sur justement expliquer pourquoi Emmanuel Macron ou les macroniens ou tous les partis utilisent ces mots-là. C'est plutôt, on sent d'ailleurs dans les sons que vous avez passés, encore une fois, on sentait les guillemets, un peu l'ironie, donc c'est vrai, on utilise les mots qu'ils utilisent en soulignant d'ailleurs que c'est des éléments de langage. Le mot élément de langage, on l'utilise d'ailleurs beaucoup dans nos papiers pour un peu souligner tout ça. Les auditeurs, ils savent, ils comprennent, ils arrivent à décrypter, alors aussi bien d'ailleurs que ceux qui vous écrivent, je pense.
Yael, sur oui. La manière dont il faut écouter le ton avec lequel les journalistes reprennent ces éléments.
Parce qu'en presse écrite, vous verriez effectivement des guillemets, on verrait que ce sont des citations. Nous, on essaie de mettre un ton, donc il faut entendre dans
on
le ton
moque.
Qui est mis.
On
itinérance mémorielle. Encore une itinérance mémorielle.
On s'en moque beaucoup d'itinérance mémorielle.
Oui, c'est presque, c'est même, oui, c'est tout à fait sarcastique, oui.
C'est à ce moment que le président décide de voir le dernier de ses fidèles, son dernier recours, celui qui jamais ne le jugera. Oui, il va nommer la dernière personne en laquelle il peut encore avoir confiance.
Christophe Castaner.
Non, Nemo, son fidèle compagnon, nettement plus compétent.
Donc les gilets jaunes sont souvent des gens qui galèrent financièrement et auxquels Macron veut prendre encore plus de thunes. Ça, c'est classique chez lui, hein, c'est son tube, c'est son les lacs du Connemara. Voilà, pour prendre une référence qu'Alex connaît. Je ne veux perdre personne en route, attention. Hein.
Emmanuel Macron a annoncé que la fiscalité sur les carburants pourrait être atténuée si le prix du pétrole s'envole.
Eh oui, je crois que si la fiscalité sur les carburants ne s'atténue pas plus vite, c'est surtout lui qui va devoir s'envoler rapidement pour quitter le pays.
Bah regardez-nous par exemple, on est des abrutis ou on est la honte de la République? On est aux ordres de Macron ou on est Radio Bolchou? Je comprends plus rien.
Guy nous écrit, j'ai 68 ans et j'ai fêté les 50 ans de mai 68. J'ai donc connu l'ORTF. Depuis plusieurs mois déjà, vous consacrez en majeure partie vos programmes à la promotion des ministres du gouvernement. Je vous signale que c'est la raison pour laquelle nous avons boycotté l'ORTF. Mais continuez si ça vous amuse. Heureusement, les humoristes Charline, Vizorek, François Morel, Guillaume Meurice relèvent le niveau conservateur de vos ondes. Alors les auditeurs estiment que la liberté des humoristes est beaucoup plus affirmée que la vôtre, donc éditorialiste. Et puis puisque sous couvert d'humour et d'insolence, ils véhiculent des opinions et ne sont pas tenus à un droit de réserve.
Ça me donne, envie de me replonger, moi qui passe ma vie dans les archives pour ma chronique des Bobineau. Je vais rediffuser de quelques vendredis, dans les vendredis qui viennent, ce qu'était l'ORTF, pour que ce monsieur se souvienne exactement. Parce que franchement,
alors on va écouter avec gourmandise.
Mais oui, vous venez de le montrer. Est-ce qu'on a l'air, alors ce sont nos humoristes, mais même réécouter nos chroniques, nos papiers, il y a quand même une distance qui peut dire que l'esprit critique ne règne pas à France Inter. Qui peut le dire? Je peux vous dire que dans les allées du pouvoir, quelques pouvoirs. Moi, j'ai été là sous Sarkozy, sous Hollande et sous Emmanuel Macron. Dans les allées du pouvoir, l'esprit critique de France Inter n'est pas spécialement apprécié.
Yael Gauz.
Moi, j'ai envie de dire la différence avec les humoristes, c'est ça. Hein, c'est que. Oui.
C'est-à-dire que.
Chacun chez soi et les vaches sont bien gardées. On fait pas le même métier, quand même. Voilà, il faut quand même le rappeler. On n'est pas là pour faire de l'humour. Nous, on est là pour essayer de donner à voir, à comprendre la politique qui est en train de se faire.
On n'est pas les fous du roi. Parce voilà. Les humoristes ne sont pas les fous du roi. Dans ce que disait ce monsieur, il voulait dire, j'ai l'impression, que finalement, les humoristes avaient la liberté de dire ce que nous, on n'avait pas la liberté de dire. On a l'entière liberté de dire ce qu'on veut dans le cadre de notre métier. Notre métier, je le rappelle, il faut le rappeler en ce moment, se base sur des réalités factuelles qu'on analyse. Les humoristes, et ces réalités factuelles qu'on analyse, elles ne sont pas marrantes tous les jours. Les humoristes sont là pour faire péter un petit peu la soupape. Et donc, eux, ils dépassent les bornes. C'est leur métier de dépasser les bornes. Nous, on ne peut pas dépasser les bornes. Et nos bornes, on les revendique. C'est pas des bornes de liberté, c'est des bornes factuelles.
C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice, une émission préparée par Catherine Cadic et Juliette Fayollet, à la réalisation François Audouin. Et pour nous écrire, une seule adresse, mediateur.radiofrance.fr. Thomas Legrand, Yael Gauz, un grand merci. Après le flash, vous retrouvez Ali Rebéi et ses invités, l'écrivain Jean-Claude Carrière et la journaliste Christina Pelédouel. Thème de l'émission aujourd'hui, le sens de la vie.